Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Extrêmement triste, cette histoire-là. Trois passionnés de motoneige qui ont perdu la vie dans les Chic-Chocs en Haute-Gaspésie à la suite d'une avalanche. Les victimes sont Joël Crête, 35 ans, Brian Fogg-Morissette, 33 ans, et Nicolas Vanasse, 30 ans. En fait, c'est le pire accident du genre à survenir au Québec depuis les 25 dernières années. Dominique Boucher, directeur général d'Avalanche Québec et préventionniste en matière d'avalanche. Bonjour.
Bonjour.
Pour ceux et celles qui maîtrisent peut-être un peu moins bien le territoire d'abord, c'est un coin qui est propice à ça?
Effectivement, certains secteurs là en Haute-Gaspésie, en Gaspésie même en général, avec le parc national de la Gaspésie, réserve faunique des Chic-Chocs, mais aussi certains territoires publics là présentent tous les ingrédients dans le fond pour avoir un risque d'avalanche, à savoir là un terrain suffisamment incliné, des quantités de neige quand même importantes de façon générale, et l'ingrédient là qui est la présence de personnes sur le territoire pour la pratique de sports d'hiver, que ce soit le ski de randonnée, que ce soit la motoneige hors piste, que ce soit la raquette ou le ski de fond. La destination est de plus en plus prisée pour ce genre d'activité-là. Donc, tout est réuni pour un risque d'avalanche.
Un peu comme c'est le cas, par exemple, pour les tremblements de terre, il y a une espèce d'échelle de gradation en ce qui concerne les avalanches. Décrivez-nous un peu l'ampleur de cette avalanche.
Vous voulez dire au niveau de la taille de l'avalanche ou au niveau du niveau de danger? OK, au niveau de la taille, c'est une échelle qui va de 1 à 5. Une avalanche de taille 1 est une avalanche relativement sans danger pour une personne. Et c'est une échelle plus exponentielle, c'est-à-dire qu'une taille 2 est pas deux fois plus grosse qu'une taille 1 et ainsi de suite. Et au Canada, on a cette échelle-là est sur 5, 5 étant les plus grosses avalanches connues qui pourraient se produire, qui peuvent ensevelir un village complet. Ici, dans les Chic-Chocs, ce qu'on a enregistré de plus gros est à peu près 3,5, disons. Donc, la moitié de l'échelle, mais quand même des avalanches majeures là, qui couvraient des surfaces là, très, très importantes, capables de casser des arbres là, matures, donc des dépôts assez importants.
Là. Bon, lorsque ça survient, lorsqu'on est enseveli, par exemple, sous la neige, chaque minute compte, là.
Effectivement, les statistiques démontrent là, et ça c'est pas les statistiques là, uniquement au Québec ou les statistiques là, canadiennes, mais c'est partout dans le monde qu'après seulement 15 minutes sous la neige, on a une chance sur deux de retrouver les personnes en vie. Donc c'est très rapide et c'est la raison pour laquelle on doit privilégier des secours par les personnes qui sont sur le site eux-mêmes. On n'a pas le temps d'appeler l'aide et d'aller chercher de l'aide extérieure. Donc, c'est important que toutes les personnes qui sont présentes, participent à l'activité de motoneige, de ski, aient l'équipement nécessaire pour permettre un sauvetage avalanche et savent le faire de façon efficace et rapide.
Dans un cas comme celui-là, qu'est-ce qui peut avoir déclenché l'avalanche? Est-ce que c'est la vibration des motoneiges, le moteur, l'endroit où ils ont passé? Quelle est votre hypothèse, votre évaluation?
Ben, d'après ce qu'on connaît de l'histoire, c'est la surcharge là, suite au passage de la motoneige sur la neige. Vous savez, un manteau neigeux, c'est pas uniforme, c'est composé de plusieurs couches de neige successives qui s'installent durant l'hiver, qui se transforment aussi durant l'hiver. Et il y a des couches qui sont fortes, il y a des couches qui sont faibles. Et parfois, on va retrouver une couche un peu plus résistante au-dessus d'une couche faible. La couche faible va être capable de la supporter jusqu'à un certain point, mais il y a comme un équilibre précaire, un équilibre un peu instable, et parfois ça va juste prendre le passage d'une personne pour la déclencher. Il y a différents éléments déclencheurs humain, je dirais, le passage de motoneige, skieur. On fait même du contrôle d'avalanche parfois avec des explosifs pour volontairement déclencher des avalanches. Alors que cette surcharge-là peut être faite aussi de façon naturelle. Ça peut être, par exemple, une tempête après avec une bonne bordée, un épisode de vent qui va déplacer de la neige et la déposer à cet endroit-là. Ça peut être un redout. Donc, dès qu'on ajoute une surcharge sur un manteau neigeux qui est en situation d'équilibre précaire, ben là, on peut déclencher une avalanche.
Comment on doit agir? Si, exemple, on se retrouve dans une situation comme celle-là, vous êtes préventionniste, donnez-nous peut-être quelques conseils, là. Le BE, qu'est-ce qu'on doit connaître absolument?
Ben, il y a le volet prévention, oui. Et il y a le volet intervention. Dans le volet prévention, ce qu'Avalanche Québec recommande pour profiter de la montagne en hiver de façon sécuritaire, c'est d'abord s'éduquer. Il y a des cours d'avalanche qui existent. L'an passé, il y a plus de 1000 personnes qui ont suivi ces cours-là à travers la province. Dans un cours de 2 jours, on est en mesure d'apprendre à reconnaître un terrain avalancheux, apprendre à reconnaître les conditions météorologiques qui augmentent le risque d'avalanche. On est capable aussi d'apprendre à utiliser le matériel de sauvetage que sont le DVA, donc détecteur de victimes d'avalanche, la pelle et la sonde. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est s'équiper, donc avoir ce matériel de sauvetage-là, savoir s'en servir, pas le louer, puis ben on peut le louer, mais si on sait s'en servir, faut avoir pratiqué au préalable, évidemment, savoir comment ça fonctionne. C'est évidemment un événement très stressant lorsqu'on doit intervenir en avalanche, lorsqu'il y a des amis sous la neige et on doit les trouver, les localiser, les déterrer. Donc, faut avoir déjà manipulé ça. Et la troisième, c'est s'informer avant de partir. Consulter l'information qui est disponible, s'il y a un bulletin d'avalanche pour cette région-là ou en périphérie, si on sait qu'il y a des gens qui étaient là la veille, quel genre de conditions on retrouvait. S'informer de la météo aussi. Parfois, la tempête se lève durant la journée. Ça peut changer complètement le déroulement de la journée. Donc, essayer d'avoir un maximum d'informations sur l'endroit où on va et les conditions qu'on va rencontrer durant notre séjour en montagne. Donc, ça, c'est un aspect préventif. On peut aussi faire appel au service de guide. Le guide, son travail, c'est de vous amener en montagne, de vous faire vivre la plus belle expérience dans les endroits qui vous convient selon votre niveau de pratique et aussi de vous ramener en toute sécurité à la maison. C'est ça le travail du guide.
Et si on est
donc, en prévention, on peut travailler.
Et si on est face aux faits accomplis?
Ben, il y a différentes techniques là, qui sont enseignées dans les cours, là, notamment le premier réflexe, c'est d'essayer de s'évader par les côtés de l'avalanche lorsque c'est possible. C'est parfois pas possible. L'avalanche prend quand même beaucoup de vitesse. On peut être déstabilisé par la neige qui s'effondre sous nos pieds. Alors, c'est très difficile. Et ce qu'on va recommander, dans le fond, c'est d'essayer de nager. Quand l'avalanche est en mouvement, c'est comme si on se retrouvait dans une rivière avec des rapides. Donc, on veut essayer d'éviter de se faire entraîner vers le fond. Donc, on peut essayer de nager, pousser vers le haut avec les mains pour rester en surface. Et lorsque l'avalanche cesse ou s'arrête et qu'on sent qu'on va être pris dedans, là, c'est de créer une poche d'air avec le bras comme ça pour maximiser l'espace d'air pour pouvoir respirer le plus longtemps. Parce que le 15 minutes, c'est tout simplement que les gens s'asphyxient avec leur propre CO2 sous la neige. Donc, on veut essayer de créer cet espace-là, rester calme autant que possible, même si ça doit être très difficile, et espérer que nos amis sont pas trop loin pour nous sortir.
Dominique Boucher, directeur général d'Avalanche Québec. C'est une histoire d'une extrême